ça me ferait presque le coup d'avoir le... l'enregistreur juste à côté.
Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la culture pop en général et surtout en particulier. Le deuxième jour de Série Mania s'achève et on est déjà sur les rotules. Faut dire qu'on n'a pas vraiment le temps de manger ce soir. Ce n'est pas une blague. Ne vous étonnez pas si vous entendez des bruits de fourchette. C'est tout authentique. Et quand je dis on, je veux dire moi et ma volontaire du jour, Alix. Coucou Alix.
Coucou.
Donc tu peux te mettre à manger tes pâtes parce qu'on va commencer par parler. On va faire dans l'ordre tous les trucs qu'on a vus aujourd'hui. Et ça commence par moi qui ai vu un truc à 13h30. J'ai vu Click. Une série apparemment co-créée par... je ne sais pas prononcer son nom, c'est Brian...
Elsley.
Et sa fille qui s'appelle Jess Bridman, c'est ça?
Oui.
Et donc, c'est une série qui a été créée pour le web, qui a été complètement diffusée sur le web en Angleterre en mars. Moi, j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas eu le temps de la voir. Je me suis dit, je vais regarder sur grand écran. Premier point hyper positif, il y a une chanson... qui est dans le pilote au début, qui est une chanson qui est dans la fin de l'épisode 2 de Sweet Vicious au moment où elle décide d'attaquer le basketballeur et qu'à un moment il leur dit un truc et elle se retourne vers lui, ils sont en train de s'éloigner, il dit un truc, elle retourne vers lui en glissant, il y en a même qui glisse à genoux à côté de lui et il y a une chanson qui passe à ce moment là et c'est un truc qui s'appelle Horns de Bryce Fox. Et en gros, toutes les paroles, c'est « elle a deux petites cornes ». Enfin, en gros, c'est le diable. Cette fille, c'est le diable. Et donc, elle a deux petites cornes. Et ça me plaît bien. Je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, dès que j'ai entendu la chanson, j'ai fait « c'est bon ». Vous avez la même... Il y a un crossover musical avec Sweet Vicious. Donc, de toute façon, on est sur la même longueur d'onde. Je trouve les actrices totalement fascinantes. C'est un peu, je dirais, Gossip Girl à l'université, si Gossip Girl avait des réelles conséquences psychologiques réelles. J'ai déjà dit réelles, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que... et toi, tu l'as vu en plus, tu l'avais déjà vu.
Non, je l'ai pas vu, moi.
Ah, tu l'as pas vu, d'accord.
Non, je l'attends avec impatience.
Donc je vais... Je veux pas dire autre chose, parce que je pense que c'est vraiment une série que les gens vont avoir l'occasion de voir. Je partagerai le fait que j'ai... croiser une femme d'un certain âge à la sortie qui m'a dit « Oh, mais alors ça a vraiment aucun intérêt, ça veut rien dire. » Et donc je lui ai dit « Je suis pas d'accord, moi je trouve ça très intéressant. » Puis ça pose plein de questions, elle dit « Oui, mais enfin en même temps, ces filles-là qui prennent de la drogue et qui couchent avec, tout le temps avec n'importe qui, ça veut rien dire. » Genre, à mon époque, on faisait pas des choses comme ça. Et j'étais là « Oui, mais vous savez, c'est un peu... » c'est une réalité culturelle, sociale aussi, et de poser la question de ce que ça veut dire et de ce que ça entraîne et pourquoi. Parce qu'il y a tout un truc, avec des problématiques de féminisme à la mode, de certaines formes de empowerment de femmes qui est au centre du truc. Mais je trouve que surtout l'actrice principale, elle a un truc à l'écran, t'as juste envie de la regarder. Moi, je me suis posé la question si j'allais prendre le métro, rentrer et regarder toute la suite de la série plutôt que de continuer. Mais j'avais un date très 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 cool à 15h, donc je l'ai pas fait. Moi j'ai très très envie de voir la suite, j'ai pu voir qu'un seul épisode parce que j'avais un date à 15h. Mais voilà, c'était une très 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 bonne surprise, j'ai très envie de voir la suite. J'aimerais bien assister du coup à la conversation avec les créateurs, sauf que c'est pendant Julia Margulies, donc je n'ai pas vraiment envie de rater ça parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je l'aime elle. Donc voilà, mes clics, moi ça m'a vraiment plu et puis... Ça aussi, côté pas comme Skins exactement, mais il y a aussi un vrai plaisir à regarder. Oui, je sais, c'est bien, les séries dark, les machins. Mais moi, j'adore les séries ados, j'adore les séries qui sont jolies à regarder avec de la bonne musique, les machins. Et donc, je sais pas, moi, ça me dérange pas de voir des gens beaux à l'écran. C'est mon côté midinette. Du coup, j'ai vraiment kiffé. Toi, t'es arrivée après.
Voilà, et t'as vu un truc par Your Honor.
Voilà, et alors du coup, tu vas parler de Your Honor pendant que je commence mes pattes.
D'accord.
Donc si vous entendez ma fourchette, ne vous étonnez pas, je rapproche le micro d'Alix pour que ça fasse moins de bruit. Vas-y ma chérie, Your Honor.
Donc Your Honor, une série israélienne.
Je crois que c'était japonais.
Non, pas du tout, c'est Even qui est la série japonaise.
Je crois qu'il y avait une autre série japonaise.
Ah, je crois pas.
J'ai dû créer un code couleur chelou dans mon programme et du coup,
ça se ressemblait entre les deux.
En fait, non, parce que japonais, j'ai mis la couleur jaune. Donc du coup, c'est... Oh, ce qui est d'ailleurs très, 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 pas politiquement correct. Je suis en train d'y réfléchir, mais c'est vraiment pas ça. C'était à cause de l'un des couleurs. Et Your Honor, effectivement, c'est violet, donc ça n'a rien à voir. Bon, passons, vas-y, parle de Your Honor.
Du coup, alors, moi aussi, pour des questions de timing et de créneau, je n'ai pu voir que le premier épisode sur les trois qui étaient présentés au festival. Du coup, c'est donc l'histoire d'un juge, voilà, manifestement très respecté dans son métier, tout ça, un homme relativement, enfin, qui est présenté en tout cas dans le premier épisode comme étant quelqu'un de bien, dont le fils a malheureusement un accident de voiture le jour où il passe son permis. Et en fait, du coup, il percute un motard et ensuite fait un délit de fuite. Donc voilà, à la fois, je n'ai pas trop envie de spoiler, en même temps, voilà, et en même temps, ce n'est que le premier épisode, donc je me permets quand même de vous en parler un peu. L'une des choses qui est drôle, c'est de voir... Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, évidemment, tout de suite, le juge n'a qu'une envie, c'est de faire ce qui est bien, faire la bonne chose, et donc pas forcément protéger son fils, mais le mettre face aux responsabilités qui sont les siennes. Et du coup, ça change beaucoup, je trouve, de la version américaine, potentiellement, de ce genre d'événement, qui en général, met en avant plutôt la défense de la famille avant la défense des responsabilités. Mais du coup, là, ça donne quelque chose de très, quelque part de très surprenant. Et en fait, bon, malgré tout, on rejoint les codes narratifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... Enfin, si le père mettait vraiment son fils en prison, ce serait pas du tout la même série. Et là, clairement, en fait, donc on le sait un peu dans le pitch, hein, le problème est qu'il réalise très rapidement que son fils a en fait percuté, et donc mis dans un état critique, pas n'importe qui malheureusement, mais le fils d'une des familles criminelles les plus importantes de la région. Et que du coup, ça risque de toute façon, la famille en question cherche déjà à essayer d'émettre des représailles, et malheureusement, ça risque aussi de créer carrément tout un conflit entre deux groupes de criminels, parce qu'évidemment, ils croient que c'était quelque chose de ciblé et que c'est... Donc voilà, il veut pas mettre son fils au milieu de tout ça, donc évidemment... Voilà. Donc résultat, il va... Donc ce qu'il y avait d'original s'éteint assez rapidement. Enfin, ce qui veut dire que quand même la série s'amuse à essayer d'aller vers quelque chose voilà, qui peut potentiellement être logique et intéressant et en même temps réfléchi. Donc je pense que la suite peut être pas mal.
Tu me conseilles d'aller la voir ?
Oui, j'avoue que c'est bien fait esthétiquement, la réal est très très près des individus, c'est quelque chose voilà qui change beaucoup de ce genre-là dans d'autres nationalités et tout. Donc ça c'est plutôt à voir. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est justement vers où ça va. Est-ce que ça va vers quelque chose de finalement très classique dans ce genre d'histoire, ou est-ce que ça va vers justement potentiellement des pistes intéressantes, des nouvelles pistes par rapport à ce genre de sujet, quoi. Ça, j'en sais rien.
J'ai envie de te dire, cas, l'intérêt de Série Mania, c'est vu qu'on voit jamais la suite des séries.
Mais parfois, on a l'occasion, et c'est vrai que là, du coup, si un jour j'ai l'occasion de voir la suite, je pense que j'irai voir voilà, si le 2, 3, 4 continue dans cette... Enfin, voilà, vers où ça part, c'est jamais sûr.
Mais vu que j'essaie à chaque fois de tirer une conclusion qui soit intéressante pour les gens qui ne vont jamais voir cette série... Donc, en gros, c'est possible d'aller à l'encontre du code narratif de base que, oui, non, ben... c'est pas parce que c'est un juge qu'il est obligé d'essayer de protéger son fils.
Oui, mais non. C'est-à-dire que finalement, il finit quand même par le faire. C'est-à-dire ouais. que, dramatiquement parlant, au niveau de la narration, c'est plus intéressant, semble-t-il, que beaucoup fait, d'obstacles s'offrent à lui et que, du coup, il le fasse pas. Alors que ça pourrait être aussi super intéressant de voir... En général, on voit souvent des juges dans les séries dont le fils est en prison, mais depuis longtemps, et avec lequel il y a une séparation... Tu vois, parce que du coup, la loi s'est placée entre eux. Et du coup, il y a comment ils vont se rabibocher.
Je pense à aucun exemple comme ça. À part Broadchurch, c'est genre de...
Ouais, voilà, je pense...
Mais elle n'est pas juge, elle est
oui,
avocate.
Elle est avocate, mais je pense aussi à comment ça s'appelait. Une nana... Ah merde, qui était maman et donc fils était en tôle aussi.
Pas Janet King, non. Non, mais ils sont pas des
enfants. Voilà, le truc ne revient pas. Mais du coup, voilà, là, on n'a jamais le truc. Comment ça démarre ce truc? Comment la dynamique se fait? Tu vois, est-ce que le gamin accepte son sort? Est-ce qu'il suit vraiment ce que le parent dit? Est-ce que son éducation fait qu'il comprend pourquoi il va en tôle ou pas? Tu vois, cette espèce de structuration, ça, on l'a jamais. Donc, c'est pas dans Your Honor qu'on l'aura, mais ça, je pense que ça m'intéresserait vachement à voir.
Donc.
Mais bon, la série est à voir, Your Honor est à voir.
Bon, moi, à 15h, mon date, c'était le créateur, producteur de Better Than Us, la série russe dont je parlais hier. Et donc, je pense que cette interview, je vais... Donc, c'était une interview, c'était pas un vrai date, bon, d'accord. Apparemment, en plus, il a trois filles, donc il avait pas l'air d'être célibataire. Puis bon, même si je l'aime d'amour, je vais peut-être pas l'épouser tout de suite. Bah, faut que je fasse gaffe. En plus, il parle français et comprend le français. C'est une blague, Alexander. C'est une blague. Je pense que je vais mettre le podcast en ligne. Et ce sera, c'est en anglais, c'est une version en anglais. Mais je pense qu'il y aura une version écrite de l'interview en français qui sera sur Tess. Donc, vous devriez pouvoir retrouver vos petits si ça vous intéresse. Voilà.
Faut faire attention parce que potentiellement, Yael va se retrouver avec un cas de mort sur les bras. Parce que, comme je suis très très enrhumée, si elle me fait rigoler pendant que je mange des pâtes, je peux mourir. Je ne pourrai plus respirer. Voilà, c'était juste pour le dire.
C'était juste pour le dire.
Ce sera peut-être un snuff podcast.
mais sinon, dans ce cas-là, je ne le mettrai pas en ligne. Mais qu'on fait. Non, mais c'est le truc hyper glauque.
Tu veux dire que tu laisses pas mes derniers mots aller dans le monde?
Je crois que c'est ça. Non, mais je fais un warning peut-être. Ensuite, à 16h, on a vu toutes les deux la conférence Je Like, donc je suis. Alors, je vais te laisser d'abord te dire ce que tu en penses. En plus, toi, tu as vu des épisodes de Black Mirror. Moi, j'en ai vu qu'un seul. Moi, je voudrais dire juste un truc. Hashtag Marie Turcan, elle est trop merveilleuse.
Mais alors, complètement.
Qu'est-ce qu'on l'aime. Elle est trop cool et elle est drôle et elle est charmante. Et t'as tout le temps. Elle fait tout le temps rire la salle.
Elle est pertinente. Elle pose des questions intéressantes et en même temps, elle les pose de façon décontractée.
Ouais, et puis elle a son côté un peu sale gamine, tu vois, dans son attitude. Et en même temps, tu vois comment elle maîtrise quand même des concepts et qu'elle les amène tout d'un coup, l'air de rien. C'est. Voilà, donc elle, je suis hyper fan.
Donc... Après, c'est vrai que ça fait un peu retomber le soufflet quand les interlocuteurs en face sont pas vraiment dans la même dynamique, dans le même enthousiasme. Voilà. Donc, alors après, c'est marrant parce que c'est très représentatif de leur propre statut. C'est-à-dire que du coup, il y avait une prof de fac, une chercheuse sociologue, qui était là et qui du coup avait un discours très académique, très construit, qui avait préparé ses réponses, qui du coup avait du mal à suivre les évolutions des questions de Marie, dont manifestement elle avait eu la liste avant, donc elle avait préparé ses réponses et du coup dès que ça divergeait un peu, ça avait l'air de la perturber d'ailleurs. Enfin non, en fait elle en restait imperturbable, c'est-à-dire qu'elle répondait à la question qu'elle avait préparée, pas du tout à la question de Marie, ce qui était quand même un peu dommage. Parce qu'il faut rappeler quand même que ce genre d'intervention, théoriquement, ce sont des échanges.
On n'a pas dit de quoi ça parlait.
Alors oui, bien sûr. Alors donc, ça parlait d'un épisode, en particulier d'un épisode de Black Mirror, qui est le premier de la saison 3, et qui est donc un épisode qui fonctionne sur le thème des notations entre personnes, et du coup, des notations dans la vie de tous les jours, et de comment ça se passe quand le système... est basé sur la notation par autrui de soi-même et donc de toutes les possibilités qu'on va potentiellement avoir dans la vie avec.
Alors, je sais pas si j'aurais compris si j'avais pas vu l'épisode et les extraits.
D'accord.
Bah, donc, après, c'est de son dont ils ont parlé dans le truc, mais
oui, oui.
L'épisode spécifiquement, on est dans un monde où à chaque interaction, les gens se notent mutuellement par une application qui est la même. C'est pas plusieurs applications, ils ont une application. Et j'y note chaque interaction, donc un service, quelqu'un qui dit bonjour, quelqu'un qui donne des nouvelles et tout. Et ils envoient un certain nombre d'étoiles et du coup tout le monde a un score. Qui est lié à cette notation. Et donc c'est Bryce Dallas Howard, la fille de Ron Howard, qui est l'héroïne principale et qui elle a un score de 4.2 et qui en gros, parce qu'elle n'est pas sur 5 et parce qu'elle n'arrive pas à monter plus haut, et ben elle a des soucis et donc elle essaye de faire des choses pour monter plus haut et elle finit par en fait dégringoler. En gros, c'est ça l'épisode que je n'ai pas vu. Apparemment, qui est coécrit par Rashida Jones quand même.
Ah bon ?
Et Mike Schur, c'est Mike Schur et Rashida Jones qui ont écrit cet épisode et c'est réalisé par Joe Wright et du coup, il y avait vraiment du potentiel pour que ça me plaise. Mais moi, j'ai vraiment pas envie de regarder Black Mirror. Et donc, toujours est-il que déjà, moi, j'ai toujours pensé, en fait, le truc, c'est ça. J'ai toujours pensé sur Black Mirror. Ça a l'air d'être ce truc que les gens disent « Ah, mais si ça se trouve, il va se devenir ça, ça », et que ce soit des versions paranoïaques ou des gens qui disent « Ah, ce serait trop cool », ou « Si ça se trouve, un jour, les gens, ils vont faire ça, ça, ça », ou je sais pas quoi. Comme si c'était des idées fabuleuses et intéressantes. Et où des fois, et moi, j'entends le truc et je dis « Mais non, ça arriverait jamais. C'est... Enfin, les humains sont pas comme ça. » Ou non, ça c'est une vision hyper naïve, ou hyper défaitiste, ou hyper... Mais généralement, il y a un truc sur la naïveté, en fait. Et généralement, tout ce qu'on me décrit des épisodes de Black Mirror, c'est ce genre de conversation. Tu sais, mon père, il fait des trucs comme ça, tu vois, des fois, il lit un article sur les robots, et il dit, il y a quelques années, il me dit, mais tu vois, ce qui sera incroyable, c'est le jour où les robots, ils font blablabla, et il me dit des trucs, et moi, je dis, mais non, les robots, ils font... Enfin, tu vois... je dis pas que c'est que ce qu'il dit c'est pire que la réalité, je dis juste ça me paraît une vision hyper facile et de quelqu'un qui a pas vraiment réfléchi à la question. Et quand on me décrit des épisodes de Black Mirror que je n'ai donc pas vu, donc je peux pas m'en juger à part celui avec le cochon, et ben du coup j'ai toujours l'impression que c'est ça, et du coup ça m'a jamais donné vraiment envie.
Mais en fait c'est parce que y a, je pense que
et j'ai ressenti la même chose à la conférence, en fait j'ai eu l'impression que exactement ce que la discussion qu'ils avaient c'était le reflet exactement de ça.
Mais un des malentendus, je pense que c'est parce que du coup Charlie Brooker est un auteur qui a tendance à juste et moi ce que je trouve hyper intéressant dans sa façon d'écrire, après on ne peut pas tous, enfin voilà, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer, mais du coup il aime bien jouer sur la notion du what if, et du coup donc et si il se passait ça, et là lui il déroule un fil sur l'idée, pas sur les personnages, du coup l'univers peut ne pas te paraître cohérent émotionnellement par rapport à ce que les humains feraient. Ce qui l'intéresse, c'est l'idée de « et s'il se passait ça ?»
Oui, mais
du coup, par extension, il se passe déjà ça. C'est-à-dire que c'est pas une question de savoir si...
Ah non, mais moi, c'est le déroulé, en fait. C'est le déroulé.
Ah ouais.
C'est le déroulé qui me semble pas crédible. Je comprends le truc, mais je trouve que déjà, le fait que ce truc-là est basé quand même sur... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est pas tant les humains. Les humains, c'est aussi l'histoire, c'est la société, c'est la... Enfin, tu vois ? Et je trouve juste que à chaque fois ça me paraît mais bon en tout cas que ce soit vrai ou pas, le truc c'est que cette conférence m'a donné la même impression. Du coup ma question c'est, toi, l'impression de...
Bah, en même temps c'est ce qui je rebondis, parce que ce qui était drôle dans la conférence, c'est quand même que du coup une des questions qui a été centrale pendant tout le début de la conférence était pardon, je crache sur le téléphone, mais pas du coup du coup une des questions qui était centrale au début de la conférence était, est-ce que c'est une dystopie ou pas cet épisode, et du coup est-ce que donc
il y avait cette espèce de... comment c'était central, parce que c'est très drôle, c'est pas comme si j'avais dit oh on se demande c'est une dystopie ou pas, c'était beaucoup plus drôle.
Ça a été présenté comme une dystopie, et ensuite du coup ça a été réfuté comme une dystopie, parce qu'en fait mais c'était enfin oui j'ai...
en fait c'est Marie a dit oui une version dystopique, et la sociologue a dit oui enfin c'est pas vraiment une dystopie, c'est un peu la réalité, et la Marie a fait ouais enfin en quoi c'est pas une dystopie, et du coup, et ce qui était très drôle c'est qu'après elles sont pas rentrées dans le conflit, mais par contre pratiquement à chaque intervention la sociologue au début pendant la première moitié disait
c'est ça
d'ailleurs, et donc c'est pas une dystopie parce que machin, et le mot dystopie, si on avait fait un drinking game avec une bouteille de vodka, on serait
c'est
tous
ça.
Morts de
bon, moi
de,
évidemment de... je me suis offusquée quand j'ai réalisé qu'en fait elle sait pas ce que c'est qu'une dystopie, parce que manifestement elle a opposé ça à Uchronie alors que ça a rien à voir.
Non,
utopie alors que en fait ça n'a rien à voir.
Ah, ça n'a rien à voir, dystopie et utopie.
Une utopie c'est une version idyllique d'un monde, voilà. Une dystopie c'est le changement du monde, que ce soit en positif ou en négatif, à partir d'un changement spécifique. Donc voilà, par exemple, The Man in the High Castle, c'est les gens, les nations ont gagné la guerre.
Mais non, ça c'est une uchronie.
Ah bah c'est moi alors qui dis des conneries.
Ouais, la dystopie.
On pourra couper ça au montage ou pas ? Parce que là du coup je passe trop pour une conne, on est d'accord.
Non.
Merde.
La dystopie.
Ah bah non, pour moi justement.
L'uchronie c'est une version alternative de la réalité, de l'histoire, avec un changement.
Mais c'est pas.
Bah si, 10 c'est le contraire de. Enfin je sais pas. Je sais pas. Je vais chercher sur internet.
Donc n'hésitez pas à regarder dans les notes du podcast, a priori il y aura peut-être une.
En tout cas moi je veux dire, moi j'ai trouvé qu'ils disaient rien d'intéressant. Qu'ils avaient le coup de discours, et c'est rigolo parce qu'à un moment Marie a dit, ah c'est rigolo, moi mes amis m'ont tous dit, mes amis qui ont comme moi 12 ans, ça m'avait beaucoup rire, ils ont tous dit, putain on dirait que c'est un épisode écrit par nos parents, que c'est nos parents qui disent arrête d'être sur Facebook et de liker et tout machin. Je suis assez d'accord, et du coup ce que disait la sociologue aussi, et tu vois elle avait l'air de dire oui il faut en sortir, c'est un danger et tout, et pas du tout de réfléchir que c'est une réalité. La notation, et donc après ils ont commencé à discuter de tous les types de notations qui existent, soit par les applications,
soit pour les services, soit pour les produits,
on commence à noter
et donc
les clients,
pour les gens, voilà.
Et on note les clients et tout ça. Mais à aucun moment où elle a poussé le truc, et moi j'ai pensé à une émission de This American Life qui s'appelait, où le sujet de l'émission c'était Status Update, et ils ont fait plein de, il y a plein de segments différents, il y en a un notamment sur des jeunes adolescentes et leur rapport à Instagram et à ce qu'elles s'écrivent sur Instagram, et je me rappelle avoir entendu ce truc et me dire ouais, en fait, c'est une langue étrangère, quoi. On ne peut pas concevoir l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, mais du coup aussi par nous, avec le regard de gens qui n'ont pas grandi avec ça. Parce qu'en fait, ça n'a pas la même... ça crée des nouvelles valeurs. C'est pas juste une perte de valeur, c'est aussi un apport d'autre chose. D'ailleurs, elle a posé la question à Marie très justement, mais alors, personne n'a répondu parce que, voilà. Bon, pour moi, je vais chercher dystopie sur Wikipédia.
je rebondis dans le sens où moi, du coup, j'ai une amie à moi qui, en l'occurrence, a 15 ans. Et du coup c'est marrant parce que justement quand j'en ai discuté avec elle, elle met énormément de photos sur Instagram, elle prend beaucoup de selfies, Et en fait, elle m'expliquait que, grosso modo, le like de ses copines, c'est une validation. Et que du coup, c'est une façon de prendre de l'ego, voilà. C'est aussi tout à fait, et du coup, en fait, elles prennent beaucoup de temps les unes les autres pour se dire qu'elles se trouvent belles et qu'elles se trouvent... Bon, après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, ça ne reste que sur le paraître. C'est-à-dire que j'espère qu'elles font la même chose quand c'est des blagues. Et qu'elles sont drôles et qu'elles disent des trucs intelligents.
Dans le truc de ce American Life, il y a un truc sur le fait qu'elles disaient gorgeous, qu'elles disaient donc belle, gorgeous, toutes des mots pour dire qu'elles étaient belles tout le temps, mais que ça n'avait pas de vrai rapport par rapport au fait qu'elles étaient physiquement belles.
Ok.
Et c'était, ça, c'est le truc qui m'a le plus. Truc. Et puis tu sens le gros questionnement de. De non, mais ça ne veut pas dire I don't mean she looks good. Enfin, tu vois, c'est pas qu'elle est jolie. Mm. C'est que. C'est beau à voir, c'est beau de l'avoir
heureuse. Je suis contente de l'avoir radieuse.
Dystopie. Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur.
Donc elle avait complètement raison en fait.
Une dystopie peut également être considérée, entre autres, comme une utopie qui vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie. L'auteur entend ainsi mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes d'une idéologie présente à notre époque. Oui, donc c'est clairement une dystopie.
Tout à fait, donc je m'excuse platement.
Non, mais par contre, la sociologue... Non, mais parce qu'elle a dit aussi, elle n'a pas arrêté de dire c'est pas une dystopie, c'est la réalité.
Oui, mais non, je m'excuse seulement pour le fait que j'ai trouvé très con qu'elle oppose ça à utopie. Alors que manifestement, c'est tout à fait ça.
Tu pensais
à le fait que... Voilà. Par contre, le fait qu'elle dise que... Qui n'empêche pas qu'en effet, pour moi, l'épisode de Black Mirror est en effet une dystopie.
Mais c'est heureusement que tu as utilisé l'exemple de Men in a High... In a High Castle. C'est que du coup, c'est que tout de suite qu'on peut continuer. Parce que pour le coup, il y a plein d'uchronies. J'avais tout un délire que j'avais à l'époque où j'avais un blog il y a très longtemps où j'écris au moins 8 posts avant d'abandonner le blog. Il y en avait un que j'avais écrit qui s'appelait Le 21e siècle sera post-narratif. Et une des formes de post-narration dont je parlais, c'était l'uchronie. Et je prenais l'exemple de c'était l'année où il y avait Inglourious Basterds et il y a eu Watchmen. Et donc, que j'ai pris comme des exemples d'uchronie. Voilà. Parce qu'en gros, je disais, on ne peut plus utiliser les mêmes codes narratifs qu'avant. Et donc, du coup, on fait dans le décalé, le désordonné. Voilà. Faudrait que je relise ce blog post. Fred m'avait dit qu'il avait trouvé très très bien, mais qu'il n'était pas sûr qu'il y avait une vraie théorie derrière. Mais ça avait l'air très joli comme démonstration. Donc, toujours est-il que voilà. Donc, dystopie, pas dystopie. En tout cas, on est d'accord, c'était un peu chiant.
En tout cas, j'ai pas eu la sensation d'apprendre grand-chose. C'était surtout ça qui était dommage, c'est que du coup, à vouloir nous donner des exemples pour nous expliquer comment c'était pertinent de comparer l'épisode en question de Black Mirror à la réalité, ce qui en fait est un peu le principe même de l'épisode en question, je veux dire, du coup, si, pour ceux qui l'avaient vu, ça paraissait relativement évident. Du coup, ça ne poussait pas beaucoup plus loin.
Ouais.
La réflexion, le seul petit intérêt, enfin pour moi, un des trucs que j'ai trouvé intéressant, et alors là, du coup, on s'excuse parce qu'on en a pas encore parlé, mais il y avait un deuxième intervenant qui était
un entrepreneur
qui venait parler entre autres de ces systèmes de notation et en même temps de l'application que lui-même a créé. Et du coup, lui, il avait le langage commercial qui va avec. Et ça, par contre, pour moi, c'était assez inédit.
Et rafraîchissant, en fait.
Et assez rafraîchissant parce que du coup, ça avait l'honnêteté du truc et en même temps... Et du coup, le fait de nous expliquer que, bien sûr, c'est évident, même si on le sait tous, c'est très sympa d'entendre un mec dire bah, « Moi, je suis là pour vendre mon application, donc du coup, je vais aller liker des gens. » Parce que ce que je veux, c'est qu'ils viennent voir qui je suis.
Oui, il n'est pas là spécifiquement à Cérémania pour
quand il est sur les réseaux sociaux, il like avec sa marque pour que les gens viennent regarder qu'est-ce que c'est son produit et que potentiellement il le like en retour et que du coup, il se fasse une publicité ou un pool de gens qui s'intéressent à ce qu'il fait. Et du coup, ça avait ce truc très rafraîchissant là d'être.
Ça fait 10 minutes qu'on en parle.
C'est vrai.
On avait dit qu'on faisait 5 minutes par truc.
Mais bon.
Non, mais je dis ça parce que je voulais que tu parles encore plus, sinon que je veux te préciser. Tu as posé une question à la fin de la conférence.
Tout à fait.
Je voudrais déjà que tu dises la question que tu as posée et que tu vois et que tu nous dises ce que tu as pensé de la réponse qu'ils t'ont apportée.
Alors, en l'occurrence, donc la question, l'épisode de Black Mirror est vraiment un épisode où on voit quelqu'un qui. Subit, donc l'épisode s'appelle Chute libre, et du coup on voit quelqu'un qui subit en fait le courroux face à des différentes actions qu'elle fait sur ce genre de, dans ce genre de société où les gens s'entrenotent. Donc, du coup, on a une situation où, voilà, où on voit un utilisateur, comment sa vie est à la merci de ce système-là et comment potentiellement ça peut être dramatique. Donc, on est du côté des subissants. Par contre, ce qui, moi, me posait question, et qui du coup rejoint un des épisodes de Community qui utilise la même thématique complètement à l'opposé.
C'était génial d'ailleurs quand t'as dit, il y a un épisode de Community et là Marie qui prend son micro, épisode 8 saison 5.
Parce qu'évidemment elle me l'a dit après, en fait elle voulait en parler et elle avait réalisé à un moment donné qu'elle avait pas le temps, et du coup quand j'ai posé ma question elle était trop contente parce qu'elle s'était dit oh bah tiens ça tombe bien, donc c'était parfait. Quelle synchronisation, Marie Turcan, je te fave. Je te like.
Je te fave, ça se dit.
Je te like.
Donc du coup, oui.
L'épisode de Community se positionne beaucoup plus du côté de l'agissant. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pas d'être noté par les autres, même si, évidemment, c'est toujours dans le même système. Donc oui, ça rentre dans l'épisode. C'est surtout, qu'est-ce que c'est que de noter les autres. Et du coup, moi, justement, ils avaient énormément débattu de quels étaient les tenants et les aboutissants d'une société ou d'un système dans lequel on se faisait noter. Et moi, je posais la question de savoir si... À un moment donné de la conférence, il parlait du fait de se sortir de ce système-là, de choisir consciemment d'arrêter d'être dans ce système-là. Et moi, en fait, je posais naïvement, parce que je ne suis pas très, très présente sur les réseaux sociaux, je like beaucoup les trucs des autres, mais moi-même, je n'écris rien, donc je ne m'attends pas à être likée. Et du coup, je m'étonnais, je demandais aux gens, mais pourquoi finalement on irait noter les autres ? Qu'est-ce qui, pas une fois qu'on est dans le système et qu'on s'est fait avoir par le système, bien sûr qu'on peut se poser la question de le quitter ou pas, mais c'est surtout, quelle est la raison, pourquoi les gens y rentrent, pourquoi les gens vont noter les choses, voilà. Et finalement, j'ai pas vraiment une réponse sur la question. En l'occurrence, ça m'a tout à fait étonnée, parce que du coup, l'intervenante qui était la sociologue a grosso modo répondu que en fait, ça ne rentre pas vraiment en compte parce que ça ne l'intéresse pas trop de savoir la psychologie de la chose.
Oui, c'est vrai. Les sociologues, on ne s'intéresse pas à la psychologie. Pourquoi j'étais là ? Oui, bah oui, c'est normal que la société, ça n'a rien à voir avec comment sont les gens. Ah bah ça c'est...
Oui, puis c'est surtout sur un système qui, c'est du coup, être entre gens et du coup, par des décisions. Voilà, je n'ai pas complètement compris cette réponse.
Et ben moi, du coup, je te dirais la réponse que j'avais envie de te donner.
Oh, super !
La question qui est, pour moi, c'est une question de contrôle. C'est une question de désir de contrôle. C'est que tout d'un coup, tu prends en charge, tu as une forme de contrôle, pas spécialement néfaste, mais en tout cas, c'est le pouvoir que tu as sur les gens. C'est que tout d'un coup, tu as de l'importance. Et je parle pas... c'est pas un jugement... c'est pas un procès d'intention. Je pense pas que le contrôle, c'est automatiquement quelque chose de négatif. C'est juste que... Ah, j'existe, j'ai une identité parce que je peux dire mon avis. C'est pour ça aussi que tout le monde dit son avis partout. C'est, je peux exister, j'ai le droit, j'ai une voix, je me sens jugée, je me pose des questions sur le jugement, sur l'impression que les autres ont de moi. Mais moi aussi, mon opinion a de l'importance. Mais c'est ce qui se passe au lycée, c'est toutes les clics, justement, pour revenir clic, parce que c'est pour ça que ça s'appelle clic, hein, c'est pas clic, tu cliques avec ta souris, c'est clic, une clique.
La clique.
Voilà. Et du coup, moi, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai dit, ce que j'ai susurré à l'oreille de Guillaume Nicolas pendant le truc, c'était que pour moi, ma théorie, c'est que l'expansion au niveau commercial et business du marché technologique, après avoir créé des trucs de réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le opt-out, d'ailleurs elle l'a dit, ça va être toutes les choses qui vont nous permettre de sortir.
Je suis d'accord.
De choisir, de filtrer, de protéger, de ne pas faire partie, de ne pas... Les trucs qui vont te permettre d'aller sur Internet sans connecter ton ordinateur, tout ton ordinateur. Je pense que ça va être... Ça, c'est l'avenir, de Silicon Valley et des startups. C'est pour moi, c'est justement la limitation de la connexion.
Le contrôle de comment...
De la connexion. Pour moi, c'est... Donc là, j'ai dit à Guillaume, tu te souviendras que c'est moi qui dis, maintenant je l'ai dit sur mon podcast.
Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que justement, une des choses qui est très significatif dans les épisodes en question, donc que ce soit Community ou que ce soit Black Mirror, et qui justement est quand même relativement pour l'instant moins poussé dans la réalité, c'est la notion de, pour l'instant, on peut soit liker, soit émettre des émoticônes qui représentent maintenant des sentiments, et par contre on ne note pas les gens. Pour l'instant on ne note pas même s'il y a quelques applications qui proposent de le faire, ce que je trouve ridicule, mais enfin bon. Du coup, on ne note pas les gens, c'est-à-dire que là, du coup, à chaque fois, dans les épisodes, c'est des notations de 0 à 5, et que du coup, justement, le principe même du truc est de classer les gens, et donc de définir si tu es meilleur ou moins bon que les autres. Et c'est là que je trouve que c'est extrêmement pernicieux, et que là, pour le coup, je vois pas l'intérêt, et donc je comprends pas pourquoi les gens voudraient aller dans ce genre de système, d'eux-mêmes, parce que du coup, là, il est plus question de se sentir valorisé soi, il est question de se sentir valorisé par rapport aux autres. Et ça, c'est vachement plus pernicieux pour moi. Du coup, tu vois, si ta prédiction, ma chère Cassandra, de la suite des évolutions technologiques voilà, est réelle, ce qui, à mon avis, est très fortement possible, je serais ravie parce que c'est bien que les gens aient du contrôle sur ça et que du coup justement à chaque fois l'esprit critique puisse se mettre en place et pas juste adhérer à un système, donc à une application qu'on a, et du coup être obligé par cette application là de se retrouver avec énormément de fonctionnalités qui vont avec et qui nous emprisonnent dans, voilà. Il y a eu toute une réflexion sur la localisation. Et c'est vrai que c'est très drôle parce qu'en réalité, moi, j'ai pas voulu faire que mon appareil soit localisé parce que j'avais pas envie que les gens sachent où je suis et que j'avais pas envie que ce soit mes amis, ma famille ou les mecs de chez Google et de... Voilà. Pendant très longtemps, hein, même si les mecs de chez Google avaient l'information depuis bien longtemps, soyons quand même clairs. Mais par contre, à partir du moment où j'ai apprécié avec grand plaisir le fait de pouvoir utiliser Google Maps pour me balader dans Paris, sans vraiment regarder où j'allais et sans regarder les noms des rues sur les rues, mais juste en me laissant guider par mon téléphone, et voilà, bah tout d'un coup la localisation elle était nette, quoi. Elle était présente.
Ça fait maintenant un quart d'heure.
Oh là là, mais nous on est des ouf. Mais tu vois, Marie, du coup, si par hasard tu nous écoutes, donc voilà.
On t'aime
et ta conférence était suffisamment intéressante pour qu'on en parle sans doute jusqu'au bout de la nuit. Donc là on va s'arrêter, mais on reprendra plus tard.
Du coup, on va parler de Damon oui Lindelof, qu'on a vu tout juste après. On a vu à 18h30. En plus, moi, j'avais rendez-vous avec quelqu'un à pré-rendez-vous, oui, c'est ça, à 17h, pensant que ça durait une heure. Ça durait une heure et demie. Elle n'a pas été déçue du voyage, heureusement, elle avait un bouquin. Donc, à 18h30, on a vu Damon Lindelof qui a fait la rencontre avec Olivier Joyard. Alors, toi, juste pour les gens qui ne savent pas, comme moi, ton rapport à Lost?
Alors moi j'ai vu Lost, vu Lost avec grand plaisir. Je l'ai un peu, j'ai pas vu dans les premières années et du coup j'en entendais beaucoup parler avant de l'avoir vu. Et finalement un jour, j'étais censée écrire mon mémoire de thèse et à la place je me suis bingé l'intégrale ou presque parce qu'il devait me manquer genre une saison et donc j'ai fini avec tout le monde, mais de façon un peu fortuite quoi.
Alors donc Damon Lindelof, pour ceux qui ne savent pas, il a co-écrit le pilote avec J.J. Abrams et ensuite il a été showrunner en demandant au bout de quelques épisodes à Carlton Cuse, qui était son mentor, de le rejoindre pour gérer la série jusqu'à sa fin. Et donc une fin qui pour beaucoup de gens pose problème. Moi personnellement, j'ai eu plein de soucis avec Lost assez rapidement en fait. Déjà à la saison 3 j'étais en ras-le-bol total et d'ailleurs j'ai arrêté de regarder au début de la saison 3 ou même j'ai pas commencé la saison 3 je crois, et du coup je l'ai rattrapé un peu plus tard et en fait j'étais enfin voilà, c'était en gros ma réaction. En plus je déteste la randonnée, ils passent leur temps à partir avec leur sac à dos dans la cambrousse, moi ça me saoulait. Je trouvais que tous les flashbacks surtout étaient hyper redondants, que c'était toujours exactement, en fait il y a une binarité dans cette série, tous les personnages ont deux modes et c'est un mode ou l'autre mode, et je dis le pire c'est Kate, qui pour qui c'est deux modes, c'est deux mecs, c'est même pas des modes à elle, c'est Jack ou Sawyer, Sawyer ou Jack ou Sawyer, Sawyer ou Jack, et moi j'étais là Et donc j'ai complètement abandonné, et finalement quand la fin a commencé à approcher la saison 6, je me suis dit bon allez, je reprends pour finir avec tout le monde, et donc je me suis tapé la 4 et la 5, et j'ai rattrapé la 6, je suis arrivée à jour avec tout le monde pour les 5 derniers épisodes, donc j'ai en 2 mois j'ai rattrapé 3 saisons, parce que je crois que j'ai commencé au moment où la 6 commençait, que j'ai recommencé la 4, on m'avait dit c'est génial, tu vas voir, par contre j'ai adoré la 5, mais alors contre toute attente, en fait j'avais tellement plus d'attente. Et pas, c'était pas du hate watch, je tiens à le préciser. Hein. C'était un peu du ouais, bon, d'accord, mais bon, il y a des trucs bien, il y a des belles scènes, il y a des très beaux moments, mais malgré tout, c'est un peu tout ça, c'est un peu du foutage de gueule. Et quelque part, à un moment, le foutage de gueule est devenu. Je sais pas, en fait, la saison 5, c'est la seule qui est de la vraie science-fiction. il y a du vrai voyage dans le temps, il y a des vrais trucs avec des coïncidences qui reprennent du sens, d'un coup tu comprends d'où vient le van Volkswagen et tout, et surtout t'as Sawyer qui évolue, qui devient une autre, qui devient un personnage à part entière et qui tombe amoureux de Juliette. Et ça, j'ai adoré cette histoire, je trouve que leur histoire d'amour était hyper belle. Et donc, du coup, finalement, quand j'ai vu la saison 6, j'étais pas du tout pleine de détestation. J'étais plutôt intéressée. J'avais découvert en plus les récaps de Doug Jensen sur EW, qui étaient 9 pages de références littéraires, qui, à mon avis, qui n'étaient pas vraiment voulues dans le script toutes, parce que c'est pas possible. Mais il se tapait des tripes en disant « Mais d'ailleurs, ça fait penser à le nom de tel personnage qui, en fait, fait penser à ce livre dans lequel un personnage, justement, fait quelque chose. » Et du coup, c'était devenu presque de la performance de lire les récaps, et ça éclairait le... Du coup, moi, je m'arrête de parler quand tu veux.
Je suis désolée, je me mouche. J'ai pas de mouchoir.
Donc, en fait, Alix va se moucher. Et du coup, en fait... La fin, j'y réfléchissais justement, la fin m'a déçue parce que j'ai pas aimé la façon dont le dernier épisode était exécuté. Je trouve que les moments de retrouvailles romantiques, notamment de Juliette et Sawyer, m'ont un peu déçue parce qu'ils étaient pas très bien faits, ils étaient pas très joliment faits. Mais finalement, j'ai rien contre la... À part le côté super chrétien, j'ai pas le temps de monter, donc il y aura toi qui te bouge au milieu. Le côté hyper chrétien du fait de l'église m'avait dérangé en revoyant, parce qu'on a revu la scène là, en revoyant la scène, je me suis dit, en fait, s'ils avaient fait ça sur une plage, s'ils avaient fait ça ou dans une grande maison, tout d'un coup ils se retrouvaient tous et qu'il n'y avait pas eu cette église.
Mais t'as remarqué l'omniprésence, enfin les vitraux
avec les. Oui, avec toutes les différentes religions.
Voilà. Donc mais... c'est marrant parce que c'était les religions, et justement avec un panneau disant spécifié non catholique, spécifié non chrétien. Ok, on a entendu, on a compris. Merci.
Mais du coup, en fait, je me suis dit que ça avait été un truc. En fait, j'ai pensé à la fin de Tree of Life où il y a tout un truc sur une plage justement avec tous les gens qui ont disparu, que tu retrouves à la fin de ta vie.
Je viens de faire intégralement spoiler de Tree of Life.
Non, t'inquiète pas, c'est such a weird movie. Ce film est tellement étrange, c'est pas un problème. Mais. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça m'aurait moins dérangé. Donc, toujours est-il que voilà, ça, c'est mon rapport. Leftovers, j'ai vu le début. C'était trop pesant, j'ai pas regardé la suite et j'ai vu le
premier
de la
3. Alors que moi, voilà. The Leftovers, j'adore. Je suis complètement fascinée. C'est une série qui m'émeut énormément. C'est une série où je trouve que les acteurs sont vraiment tous d'une justesse et où, du coup, c'est, à la fois, ça se pose la question de la difficulté du deuil et la difficulté d'avancer dans la vie et de ne pas rester bloqué sur les choses qui nous torturent et qui nous font du mal. Et en même temps, c'est aussi une série qui est complètement onirique, qui est absolument magnifique, même si souvent très dure. Et ça, elle est très sombre et en même temps gorgée d'espoir. C'est complètement fou, cette série. Moi, je l'adore.
Donc c'est bien entendu la série actuelle de Damon Lindelof, dont la saison 3 est sur le point de commencer. C'est la dernière saison, il y a 8 épisodes. Et nous, on a vu les deux premiers à la soirée d'ouverture, qui étaient très bien d'ailleurs. C'est juste que moi, j'ai pas spécialement envie de la regarder pour plein de raisons. Je suis pas dans le bon état d'esprit. Et entre les deux, il a fait quelques films et il a écrit notamment deux films que j'ai pas du tout aimés et qui m'ont vraiment énervée. Et à chaque fois, j'étais là, mais pourquoi c'est écrit comme ça, je comprends pas. Et à la fin du film, je vois écrit par Damon Lindelof et je fais ah, c'est encore lui. Mais j'ai appris ces dernières années, en l'écoutant dans différents podcasts, à découvrir que c'était un type qui avait l'air hyper intelligent, mais hyper drôle, hyper chaleureux, hyper sympathique. Du coup, j'étais très très excitée à l'idée de cette conférence. Toi aussi, tu...
Ah oui, moi aussi, j'attendais ça avec impatience. Par contre, moi, justement, c'était pas du tout vis-à-vis de son aura personnelle. C'était vraiment vis-à-vis de son travail, parce que moi, je l'aime beaucoup. Mais du coup, par contre, j'avais, moi, aucune notion de à quoi pouvait ressembler ce mec, qu'est-ce qu'il pouvait raconter, quel était... Voilà, est-ce qu'on allait voir arriver un mec absolument sûr de lui et balançant des grandes phrases, parce que c'est quand même... En général, ces séries où c'est touche à des espèces de grandes énigmes de la vie. Donc est-ce qu'il allait nous arriver tout religieux qu'il était ou pas du tout, enfin voilà, j'avais absolument aucune...
Et alors
absolument agréablement surprise, tu te doutes bien, enfin agréablement, tu m'avais dit que du coup t'étais très excitée, donc j'avais un peu ce...
Et puis Dom aussi, enfin, t'étais assis avec les Dom, et Dom il a écouté les mêmes podcasts que moi, donc
voilà. mais du coup il y a plein de petites choses qui m'ont fait tiquer, mais tu sais, tiquer dans ce genre de... Oh, c'est cool. Et du coup, enfin, tu vois, au fur et à mesure du truc, il y avait plein de trucs qui me donnaient envie de dire, mais qu'est-ce que j'aime bien ce mec. Et c'est vrai que, voilà, il y a le côté, on peut, il y a vraiment ce côté, moi j'adore son écriture et je comprends que tu l'aimes pas du tout, mais c'est vrai que ça serait très étonnant que tu me dises que t'aimes pas ce gars.
Non, mais c'est
parce
ça.
Qu'il a l'air,
et surtout, je
adorable,
pense que son écriture,
humble, gentil.
Très honnête,
très drôle, très honnête,
très circonspect sur son propre travail,
oui,
sur son
et en même
parcours.
Temps le défendant quand même, c'est-à-dire en
il
n'a
pas de regrets, voilà. Il a très bien dit, on a beaucoup dit que je m'étais excusée pour la fin, je me suis jamais excusée pour la fin et pour en plus de ça, s'il a été maltraité pour cette fin, il dit j'assume et je voilà complètement.
Moi je me suis penchée vers Dominique à ce moment-là parce que du coup il y a été plusieurs fois mention de gens qui s'étaient investis pendant 6 ans dans cette série et qui du coup étaient déçus par la fin et qui donc ils comprenaient bien et j'en faisais quand même. Je me permettais de glisser à Dominique dans l'oreille que voilà, là on parlait de plein de fans qui ont quand même investi quelques heures par année à cette série, alors que lui-même a investi réellement 6 ans de travail dans cette série, et que du coup, c'était quand même à peu près la moindre des choses qu'il fasse la fin qu'il avait envie de faire.
Mais ça,
et
c'est un
voilà,
truc qui m'a toujours tué. C'est que donc, il y a une espèce de backlash très violent contre Damon Lindelof, qui à un moment, il était sur Twitter, et à un moment, en fait, qu'il a probablement, il dit, probablement amplifié lui-même,
ouais.
Et qui du coup, à un moment, l'a fait quitter Twitter, et il a écrit une lettre ouverte ouais. Quand il l'a fait, enfin, il y a tout un truc autour de ça. Et c'est rigolo parce que moi ça m'a toujours énervée malgré le fait qu'il m'énervait lui, enfin en tout cas que les trucs qu'il écrivait, mais je pense qu'il était aussi en construction et je pense que autant je suis intéressée par voir The Leftovers un jour, autant je suis définitivement, enfin j'ai vraiment envie de regarder ce qu'il va faire après aussi, tu vois il y a vraiment, il se développe et s'est développé finalement, il a vraiment fait ses classes sur Lost et c'est hyper dur quoi à faire, mais en tout cas ce que je me suis toujours dit c'est comment ces gens qui ont tant aimé Lost peuvent taper sur la seule personne qui a vraiment, vraiment donné de sa vie et qui s'est vraiment battue pour Lost, qui a vraiment tout, enfin, ouais, qui a vraiment tout fait pour que cette série soit ce qu'elle est. Tout ce qu'elle vous aimez dans cette série, c'est grâce à lui. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi cruel avec lui?
Une des choses, moi, qui m'a marquée dans la façon dont il a parlé de Lost en particulier, du coup c'est moins le cas pour The Leftovers, c'est là que je te rejoins sur le fait qu'il a acquis sans doute en maturité par rapport aux choses, c'est que donc il nous présente quand même son propre parcours. Alors ça c'est moi un peu le défaut que j'ai trouvé à la conférence, c'est quand même que c'est extrêmement linéaire de prendre le parcours de quelqu'un.
Ouais,
niveau...
mais après quand lui c'est un si bon client qui raconte bien sa vie,
je suis d'accord,
ça marche.
Ça c'est vrai, ça marche.
Franchement,
mais c'est juste que je me suis dit
j'ai un peu
de soucis
des fois avec Olivier Joyard dans sa façon de gérer ce genre d'entretien, j'avais eu des problèmes avec sa façon de faire Matthew Weiner, mais là j'ai trouvé que ça passait très bien parce qu'il avait un tel bon client qu'il arrivait, c'était un peu comme un psy quoi, il lui faisait raconter sa vie et il mettait des petites notes et
c'est
il
vrai.
Disait des trucs, il a fait quelques bons mots,
oui,
des trucs
oui,
de moments qui étaient très très bons. Pour le coup moi ça m'a pas dérangé.
Mais du coup, la façon dont Lindelof nous a fait aborder le truc, c'était vraiment, voilà, moi j'ai toujours voulu être auteur, mais du coup je commençais à faire mes classes, et puis j'ai travaillé un peu là, et puis j'ai travaillé un peu plus là, et tout d'un coup en fait, je pensais essayer de rencontrer J.J. Abrams pour essayer de faire un épisode sur Alias, parce que je kiffais Alias, et du coup j'avais trop envie de travailler dessus, et tout d'un coup je le rencontre, et en fait on me propose de faire un show quoi. Et du coup, de me lancer tout seul, parce qu'en plus, du coup, on écrit le pilote avec J.J. Abrams, et puis en fait, lui, après, bah, il travaillait sur Alias, donc résultat, il est reparti bosser
non,
dessus.
Non, il y a le truc de Tom Cruise.
Oui,
il va avoir le truc,
ça,
et il y a
vrai,
Tom Cruise dans la salle de
moment.
Montage. Non, mais c'est exactement ça. J.J. Abrams a dit non, j'ai pas le temps de bosser sur Lost.
Ah oui,
il
c'était
a,
vrai,
pas sur Alias.
C'était mission impossible.
Parce que, en fait, et c'est rigolo parce qu'il dit j'arrive dans le truc, il y a Tom Cruise, il fait tiens, c'est Tom Cruise, il fait ah, il y a Tom Cruise, et tout d'un coup, il réalise oh mon dieu, J.J. Abrams a un projet avec Tom Cruise, c'est pour ça que Tom Cruise est là, et bingo,
et
Tom
coup,
Cruise
voilà.
Va lui demander de faire Mission Impossible 3, qui est d'ailleurs complètement naze.
Et du coup, tout d'un coup.
Non, je n'ai pas vu le 3. Je retire ce que je viens de dire, je ne l'ai pas vu le 3, si ça se trouve, il n'est pas naze.
Du coup, Damon Lindelof, qui était quand même, ou du coup, c'était son premier show en tant que showrunner. Tout d'un coup, avec lui, J.J. Abrams, qu'il admirait, tout d'un coup, se retrouve seul face à ce truc-là. Donc, il raconte, avec beaucoup de drôlerie, comment se sont passés à la fois les premiers moments d'écriture pour le pilote, et puis tout d'un coup, finalement, l'absence de commande, puis la recommande des trucs avec les premiers visionnages par des...
Par du public.
Par du public.
Ils ont dit, oui, c'est trop cher, donc non, on va pas la faire. C'est génial, mais on va pas la faire. Finalement, le public aime, donc si, on va la faire. Et c'est hyper drôle, c'est à quel point le mec, il dit, génial, on la fait pas, je suis libérée.
Voilà, c'est ça.
Non.
Et lui, il se retrouve tout d'un coup au volant tout seul de cette énorme machine, alors qu'il a jamais été showrunner de sa vie, avec des acteurs qu'ils ont... alors ça, c'était aussi un moment très drôle, où ils expliquent que, bon, comme ils avaient pas beaucoup de temps, ils ont plus... Ils ont auditionné quelques acteurs, puis en fait ils rajoutaient ou ils changeaient les rôles en fonction des acteurs qu'ils aimaient bien pour pouvoir les intégrer dans le truc en se disant bon bah finalement on va faire ça. Ah tiens, elle est coréenne, c'est intéressant. Ah bah du coup on va mettre un couple de coréens. Et Rory Garcia, il est trop bon, faut qu'on en fasse quelque chose. Bon, on n'a pas du tout créé un personnage comme ça. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, allez.
Et JJ Abrams lui dit t'inquiète pas, on va trouver ce qu'on va dire. Parce que surtout avec le truc avec la presse, mais vous n'allez pas nous faire un coup à Twin Peaks. Ah non, non, c'est exactement où on va. Et lui, mais pourquoi tu dis ça aux journalistes? Et je me rappelle des articles que j'ai lus au début de la sortie de Lost en disant ils nous assurent qu'ils sont fans de Twin Peaks et ils vont pas nous faire le même coup.
Mais du coup, voilà, du coup, il y avait cette peur, et puis du coup, son admission à lui, du fait que, voilà, très rapidement, il s'est dit, bon, ben, en fait, moi, après l'épisode 6, en fait, je vais me barrer, parce que j'en peux plus, c'est trop de boulot, c'est des voyages incessants entre Los Angeles et Hawaï pour le tournage, enfin, c'est une machine beaucoup trop grosse pour moi tout seul, et du coup, je peux pas faire ça, quoi. Et donc, il a appelé JJ Abrams en lui disant, grosso modo, bon, en fait, ça va pas le faire, moi, j'arrête. Et là, JJ Abrams lui a dit, non, stop, respire, c'est pas ça ton problème, c'est que tu peux pas le faire tout seul. Donc tu as besoin d'aide, donc est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage que tu pourrais appeler, avec qui tu voudrais faire ça? Donc c'est là qu'il a appelé Carlton Cuse.
Et la blague c'est qu'il a essayé du coup et de voilà. Démissionner en disant bon bah du maintenant coup, que
bon,
t'es
bah, maintenant qu'il y a quelqu'un qui a bien les choses en main finalement je pourrais peut-être me casser aussi maintenant.
Et il lui a dit tu non, viens de m'embaucher, comment ça tu... voilà, je conseille les Nerdist Writers Panel, surtout le premier Nerdist Writers Panel où Damon Lindelof, voilà. Puis sinon, Damon Lindelof a récemment dit 2-3 propos sur Buffy où il dit que c'est vachement bien et dans sa. Il a écrit une lettre quand il a envoyé les 7 premiers épisodes de la dernière saison qui a que 8 épisodes et il a envoyé 7 aux journalistes contre. Un peu contre son gré, en décidant, bon, j'ai décidé de le faire, mais c'est horrible. Et donc, il a écrit un courrier où il dit, chère critique, le binge-watching, c'est mal. Et pas juste parce que je suis toujours d'accord avec Joss Whedon. Et là, j'ai fait, oh, il comprend que Joss Whedon est un dieu. Donc, c'est un mec bien. Donc, voilà. Donc, je conseille tous les podcasts. Il a fait aussi un très bon conseil de Dom. C'est le How Did This Get Made sur Superman 3. Si vous avez besoin de la référence exacte, envoyez-moi un tweet. J'ai pas le temps de l'écrire dans le post. Mais ça vaut aussi le déplacement. Bon, ça fait déjà une heure qu'on parle, c'est je suis ça. Sûre, comme bien d'hab. Sûr. Voilà, bingo, on y est presque, on est à 48 minutes 32.
Voilà, on va essayer de faire rapide sur la fin.
Donc, on va faire la dernière série qu'on a vue, qui est. Parce que finalement, on n'a pas les manger pour retourner voir une série, c'est pour ça qu'on mangeait tout à l'heure. Qui s'appelle The Swell. Alors, bien sûr, comme début, je n'ai rien suivi, moi, parce que moi, je lis pas les résumés des séries, j'aime pas rien savoir, donc du coup, j'étais là. Bah, c'est pas un truc scandinave, parce que j'avais fait encore à cause de mon faux code couleur raté. Et en fait, en voyant les premières images, je réalise, ah mais non, c'est le truc avec un truc d'eau. Et donc, j'étais à côté d'Elodie sur nos écrans.
Pour ceux qui verront un jour la série, avec un truc d'eau, c'est juste une espèce de petite ironie de présentation d'Yael.
Et donc, et du coup, je réalise, oui, il y a de l'eau, il y a une inondation, il y a une vague, enfin, genre un tsunami, enfin, un truc comme ça. Et je pense, je vais à Elodie qui était à côté de moi, je lui dis, sur nos écrans, je lui dis, mais c'est dans quel pays? Elle me dit, je crois le Pays-Bas. Et là, je réalise que, étant donné que les Pays-Bas s'appellent les Pays-Bas parce que c'est une terre, comment on dit, c'est pas factice, mais c'est en fait une construction humaine, c'est-à-dire qu'ils ont repoussé la mer à cet endroit-là pour créer, mais effectivement c'est en dessous du niveau de la mer, tout le pays est en dessous du niveau de la mer pratiquement, et donc du coup ça paraît logique que s'il y a quelqu'un qui va se faire bouffer par une vague, enfin le pays qui va se faire avaler par une vague, c'est le Pays-Bas. Et en plus la langue, je me disais, ouh, ça ressemble à de l'allemand moche, c'est probablement du néerlandais, je m'excuse auprès du néerlandais. Alors The Swell,
et du coup donc c'est une série qui est hollandaise et belge, flamande quand même, parce que c'est une collaboration.
Effectivement, il y a des passages qui se passent
voilà. En Belgique. Et du coup, si y a la série à la fois joue la carte de la coproduction et en même temps de la co-narration, parce qu'il y a des échanges
parce
entre les deux.
Parce que les Belges aussi, ils ont des problèmes quand l'eau voilà. Déborde.
Tout à fait. Alors, c'est un peu plus centré sur les Pays-Bas quand même, au niveau des personnages. Mais une des choses qui était très drôle, et c'est pour ça que quand Yael m'a enfin glissé à l'oreille que c'était des Pays-Bas, cette série, j'ai en effet évidemment eu aussi une ampoule qui s'est allumée dans la tête, parce que en fait tout le début de la série commence par, à chaque fois qu'on a une nouvelle situation, des nouveaux personnages, il y a un petit affichage qui nous dit où est-ce qu'ils sont et à combien de mètres en dessous de l'eau, du niveau de l'eau c'est. Ce qui du coup, très sincèrement, commence déjà à être légèrement stressant.
Parce que déjà tu rien que l'affichage. Tu dis, voilà. il pleut, il y a une tempête, voilà. Machin, et à chaque fois que tu vois une nouvelle ville, il y a écrit, ils sont à moins 3,5 mètres du niveau de la mer. Ils sont à moins 12 mètres du niveau de la mer. Et là, tu fais, oh. Et
donc, ça va mal se passer.
Ouais, voilà. C'est bien angoissant quand même.
Ça commence assez fortement là-dessus, j'avoue. Et en plus, c'est marrant parce que ça fait, du coup, justement, avec cette entrée en matière où tout se passe normalement pour les personnages, mais où nous, on sait grosso modo ce qui va se passer et qu'on a ce genre d'indication extrêmement précise. Ça commence une montée en puissance d'angoisse qui est quand même vraiment bien bien faite sur le premier épisode. Après, enfin voilà, après c'est pas forcément qu'il y en ait pas sur le deuxième, mais c'est juste que au fur et à mesure qu'on avance dans le truc, on sait plus vers où on va parce qu'on se rend plus compte de ce qui se passe. Mais vraiment le début, ça fait vraiment, mais on a vraiment l'impression de regarder le début du Titanic. Moi, j'arrêtais pas de faire des références à ça, et Elodie de l'autre côté en faisait plein de d'autres, donc dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche, et elle entendait Titanic régulièrement, parce qu'à un moment donné, il y a l'image commence, enfin l'une des situations, c'est un orchestre symphonique, enfin un orchestre classique qui joue sur une scène, et donc on les voit tous voilà en train de jouer tous ensemble avec un public devant eux. Et du coup, moi, avec marqué la localisation est à tant de mètres au-dessous du niveau de la mer. Et du coup, moi, direct, j'étais là, oh là là, ça, c'est vraiment l'orchestre du Titanic. Ça
va. Et ensuite, il y a effectivement quelqu'un qui plonge pour aller chercher quelqu'un dans le sous-sol. Ouais. Et c'est effectivement. Et là, Elodie qui fait, c'est un peu comme dans Titanic. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Et après, en même temps, tu penses aux noyades, voilà. Tu penses à moi, Titanic quand même.
Mais vraiment, du coup, ça a quand même ce truc très très spécial du fait que tout d'un coup, c'est vraiment le côté tsunami, c'est-à-dire que tu réalises que c'est le Titanic, mais à l'échelle d'un pays, quoi. Et ça n'a rien à voir, parce que le Titanic, c'est tragique, mais je veux dire, il y a un côté, c'est des gens qui sont partis sur l'eau et qui sont sur un bateau, donc voilà, c'est
Le nombre tragique, de victimes est limité. Je sais pas combien de gens sont vraiment morts dans le Titanic, j'ai oublié.
Aucune idée, mais c'est quelques milliers, quand même.
Et du coup, ça fait penser à l'épisode de Supernatural où le Titanic n'a jamais coulé, et du coup, Céline Dion n'est pas devenue une star. C'est idiot, est une pauvre serveuse dans un diner. Ce qui n'a aucun sens d'ailleurs, parce que c'était déjà une star avant le Titanic, mais au Canada, au Québec.
Avant le Titanic ?
Oui, avant le film Titanic.
Ah oui, j'aurais dû parler avant le
mais
fait
non,
que ça
coule. Céline Dion, mais non.
Mais oui, mais du coup, dans Supernatural, c'est le fait que le bateau coule qui est impacté, c'est pas le fait que le film est sorti.
Bah oui, mais si, le fait qu'ils disent que Céline Dion n'est pas devenue une star et qu'elle est serveuse quelque part, c'est parce qu'elle a jamais eu Margaret Will Go On, donc elle n'est pas devenue une star.
Oui, mais parce qu'ils n'ont pas fait le film, parce que le bateau n'a pas coulé.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant que le film sorte et qu'elle fasse Margaret Will Go On, c'était déjà une star, Céline Dion.
Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. C'est ouais, ça que je veux dire. Pardon.
Mais oui, ça reste très drôle, hein. C'est juste le truc, mais surtout, je ne sais plus comment ils s'en rendent compte, mais je trouve ça hyper drôle que le gap historique, c'est Céline Dion n'est pas connue. Enfin bon. Tout ça pour dire que je crois que c'est peut-être le Devro qui leur dit. Enfin, ou le. Je sais plus son. Enfin bon, whatever, j'ai pas vu Supernatural depuis 5 ans. Ouais, et alors, c'est rigolo, c'est que moi j'ai senti mon niveau d'angoisse parce que j'ai réalisé qu'à vers la fin du premier épisode, j'arrêtais pas de te parler. Et du coup, je me suis dit, je suis en train de faire un boucan pas possible alors que je me suis bien tenue depuis le début du festival. Bon, ça fait que 2 jours, mais j'ai pas parlé pendant les séances. Et là, c'est juste que je me suis rendu compte que je te parlais tout le temps.
Oui, mais ce qui est très étrange aussi, c'est que moi, là, du coup, je te parlais aussi. Et ce que moi, je ne fais jamais, par contre. Parce que là, pour le coup, j'étais dans un truc qui était à la fois dans l'angoisse et à la fois dans une espèce d'attente nerveuse permanente qui faisait que du coup il y avait plein de choses qui me faisaient rire à contrario, juste parce que je pense que la nervosité enclenchait des espèces de rires sur des situations qui étaient parfois un peu cocasses mais qui méritaient quand même pas de se marrer, quoi. Et du coup, juste par nervosité, je rigolais, et en plus du coup j'arrêtais pas de faire des commentaires parce que la tension était telle que voilà, que du coup il y avait quand même ce truc un peu de prise de recul, de se dire bon, ça reste quelque chose qui n'est pas réel, quoi. On n'est pas en train de regarder les infos, on est en train de regarder les séries, donc on peut rire et on peut trouver que les personnages font des trucs cons et on peut voilà, mais justement il y avait quand même besoin de faire cette gymnastique de ouais, si ça quand ça arrive en vrai, c'est franchement pas fun, quoi.
Donc après, moi je trouve qu'il y a un vrai truc qui donne envie de se poser des questions sur voilà, on s'inquiète pas assez de l'infrastructure, on s'inquiète pas assez de la sécurité du classe, enfin des trucs chiants comme les digues, parce que justement en fait c'est ça le titre, t'as vu le titre en néerlandais, en fait c'est quand les digues se sont brisées. C'est pas The Swarm. Ouais, ouais. Mais enfin, moi, ça m'a donné envie de voir. C'est pas que c'est génial. Après, il y a donc juste pour préciser pour ceux qui ne vont pas voir la série, c'est intéressant aussi parce qu'ils prennent vraiment le parti de raconter plein d'histoires humaines très spécifiques de plein de gens à des endroits différents qui sont touchés différemment. Une des histoires humaines étant le chef du gouvernement néerlandais. Mais qui s'est traité de faveur, enfin toute la politique qui est traitée avec vachement d'intelligence et vachement de. Puis c'est pas volontairement méchant ou gentil ou Independence Day, je vais
et d'ailleurs, justement, il y a vraiment ce côté, à la fois pour l'instant, donc dans les deux premiers épisodes qu'on a vus, il n'y a pas réellement de héros, enfin dans le sens héroïque, il y a pas. Il y a quelques actes héroïques faits par des gens qui ont l'air tout à fait normaux, pas un héros qui se dégage à l'américaine, justement. Mais justement, le gouvernement aussi est assez, à mon avis, justement, dans ce genre de choses, si en effet les infrastructures et tout ça sont pas préparées, c'est face à quelque chose dont ils n'avaient pas imaginé l'ampleur et du coup complètement impuissant. Et ça, c'est très perturbant de les voir se dire quelque part à un moment donné. Il y a presque un moment donné où ils commencent à discuter de ce qu'ils pourraient dire et quel discours faire et du coup de gérer de la com, parce qu'en fait, ils ont quelques minutes avant dans la série essayé de voir comment aller aider les gens, mais en fait plus aucune route n'est praticable, ils n'ont pas les hélicos et les avions qu'il faut pour aider. Enfin, et du coup, tout d'un coup, il y a vraiment cette espèce d'impuissance totale. Et donc les mecs sont dans leur espèce de tour, parce qu'ils sont ensemble avec des informations, des... Et en même temps, ils peuvent rien faire. Et ça donne quelque chose de très humain comme façon d'envisager le gouvernement. C'était vraiment très chouette.
Ouais, je suis assez d'accord. Enfin voilà, donc moi, The Swell, ça m'a vraiment plu. On voulait voir un épisode. Et en fait, à la fin du premier épisode, j'étais là, no way, je veux savoir ce qui se passe après, ça va pas la tête.
Je veux rajouter quand même, enfin, moi, je veux juste un tout petit peu parler d'un duo qui est quand même à la fois touchant et en même temps la petite touche adorably cute de cette série, parce que tout n'est pas angoissant. Enfin voilà, je voudrais pas que les gens se disent oh là là, ça va me plomber. Non, parce que du coup voilà, les gens ont des réactions humaines, et aussi du coup ce petit vieux qui avait fait son concert de musique classique devant le premier ministre,
qui apparemment est un des plus grands musiciens du pays, hein, voilà. On comprend.
Et qui faisait du coup son dernier concert parce que sa femme était décédée et que du coup il a décidé de prendre sa retraite. Eh bien, on va se retrouver avec une petite fille à devoir garder pendant tout ce merdier.
Parce qu'elle s'est retrouvée devant sa porte et qu'elle a sonné à la porte.
Voilà, et qu'elle était désemparée quand elle voyait l'eau qui montait et que voilà, clairement. Et du coup, que tout d'un coup, ce duo va se créer et va de guingois essayer de trouver des solutions à tous les petits problèmes du quotidien qu'ils peuvent rencontrer dans une situation qui est quand même... Franchement, pas simple à gérer.
Y compris le fait qu'il n'avait pas fait les courses.
C'est ça.
Pour des raisons
très, très
évidentes dans l'histoire, mais qu'on ne vous dévoilera pas. Donc ouais, The Swell, moi ça m'a vraiment plu. Dernière pensée du jour. Pensée du jour à part, il faut aller se coucher.
Pensée du jour. Alors attends, parce que là tu me prends au dépourvu. J'avais pas du tout prévu qu'il fallait que je pense en plus.
Non, je sais pas.
Pensée du jour, c'est marrant.
Malade,
parce que,
malade
moi j'étais hier. Malade hier, donc j'avais loupé le premier jour, et du coup, pensée du jour, vivement la suite.
Ouais, c'est cool, hein, série maniaque.
Ouais, c'est beau,
c'est très simple. Enfin, bon, c'est toujours le côté colonie de vacances, mais aussi il y a le côté. Je sais pas si c'était agréable de voir aussi les réactions, un truc avec Lindelof, et puis même d'être avec des camarades différents et variés, aux différentes conférences, aux différentes séries, aux différentes. C'est vraiment un vrai bonheur, y compris, même si des fois ça mérite d'avoir des questions un peu stupides d'un public qui est clairement un peu stupide dans le sens très très naïf et à côté d'un public qui n'est pas du tout averti comme nous. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez fabuleux de cette petite vieille qui m'a dit ce qu'elle pensait être la morale de Click, et de savoir que la moitié des gens, voire plus de chaque séance, c'est des gens de tous les jours qui regardent pas autant de séries que nous, qui savent pas comment ça marche les séries. Et d'ailleurs, le deuxième drinking game, donc il y a le dystopique, il y a la définition de la SF que tout le monde a l'air de définir différemment. On y reviendra plus tard, je pense, dans ce podcast. Et il y a le fait que ils s'obstinent tous à appeler ça des films. On est à la 8e saison. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Oui, alors, hier, ah oui, c'était avec Seven Times of Beauty, ou c'était avec toi ?» Ou quelqu'un a dit, posé une question en disant « Oui, j'ai trouvé que dans cette série, c'était très bien. » Et nous, on était avec Dom et on a fait « Série, ouais !» Et là, il fait « Non, parce que c'est vraiment un beau film !» Et on a fait « Oh !» Et Dom, il a fait « So close !» On était avec Léa. Donc voilà, donc c'est pour qu'ils s'obstinent à appeler ça des films. La traductrice, notamment, qu'on se tape depuis 3 jours, depuis 2 jours, elle dit film tout le temps, systématiquement. C'est insupportable. Donc voilà, mais à part ça... Mais malgré tout, je trouve ça hyper rafraîchissant d'avoir du coup des regards vachement plus honnêtes et vachement moins attendus. Expert, ouais. Oui, mais du coup, pas du tout attendu, pas du tout la réaction que tu sais. Ah, alors, tout le monde va adorer parce que c'est dark, là, tout le monde va trouver ça blague. Donc, je trouve ça vraiment rafraîchissant, Série Mania. Et ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment chier si c'était le dernier.
Ouais, pareil.
Donc, on verra. Mais voilà, moi, c'est une belle aventure que j'aimerais qu'il continue. Voilà. À demain.
Voilà, à demain.
Puis bonne série d'ici là. Venez nous dire bonjour à Série Mania si vous nous croisez. N'hésitez pas, vous nous dites sur Twitter où vous êtes. Et puis généralement, moi je donne mon programme, donc vous pouvez me trouver si vous me voyez. N'hésitez pas à me dire bonjour.
Je suis foutue parce qu'avec ces pattes là, les 3 petits morceaux de poivron, ils restent au fond de la casserole. Oui, c'est un bruit assez désagréable, je reconnais. Ça ne fait pas crisser des dents, mais...